Hollywood, l'usine de rêve de l'univers, la Mecque du cinéma pour les uns, pour d'autres Babylone moderne, un Olympe peuplé d'êtres quasi divins aux yeux de millions d'admirateurs à travers le monde, a vu l'effet du scandale et de la calomnie, penché sur son berceau doré.
Pendant cet âge d'or de l'angoisse qui inaugura l'année 1930, les étoiles eurent bien des raisons d'être soucieuses. Certaines préférèrent s'éteindre, du moins le firent-elles comme il sied aux dieux, s'offrant en sacrifice sur leurs propres autels. Le suicide des has-been devint courant. Mais les grandes stars feignirent de ne rien remarquer. En 1932, la toujours volontaire Joan Crawford, une des rares déesses flamboyantes de l'époque du muet qui réussit à échapper à l'holocauste du parlant, estima le moment venu de publier un manifeste intitulé « Des pensées », vaillante déclaration des droits de la vedette, dans Photoplay, l'un des fan magazines les plus en vogue. Cette thèse, parue sous sa signature, proclame qu'en dépit de la crise et des souffrances de la nation, il est du devoir d'une star de ne point renoncer au train de vie que le public attend d'elle. Il lui faut s'entourer de luxe, se parer de fourrures et de bijoux, posséder une garde-robe extraordinaire. Alors seulement, les fans sont satisfaits et l'argent circule. Et Miss Crawford d'inciter son public à l'imiter, à reprendre confiance dans un système économique made in USA. « Moi, Joan Crawford, je crois au dollar. Tout ce que je gagne, je le dépense », s'écrit-elle de façon convaincante. C'était toujours en apparence le fameux Hollywood Way of Life, les luxueuses voitures de sport, le tourbillon d'une vie mondaine forcenée avec sa cascade de cocktails, de liaisons publicitaires, de media noches suivies de love parties tapageuses. Mais il ne s'agissait que d'une échappatoire quelque peu désespérée. Avec l'insouciance de l'âge d'or, son assurance aussi avait disparu, pour toujours. Le scandale ne disparut pas pour autant d'Hollywood lors de cette angoissante décade. Comme le Star System, il avait survécu à l'Holocauste, souvenir vivace de l'âge d'or, et resta la tare que l'on emportera dans la tombe. Mais les scandales des années 30 ne sont que des remakes du déjà vu. Rien en cette matière ne pourra rivaliser avec l'Hollywood Babylone des années 20, où même les délits revêtaient un caractère fabuleux. Avec l'évanouissement de cette chimère, l'auréole de gloire hollywoodienne pâlit, et, par-dessus tout, la croyance absolue des stars en la réalité du droit divin, qui les soustrayait aux lois des simples mortels. Tous les thèmes scandaleux déjà établis sont là, bien sûr. La drogue, le meurtre, le suicide hantent toujours les ruines. On reconstruit les faubourgs et les proches cités de la plaine, mais un macabre sordide a profané les temples. L'ombre d'un doute a obscurci le brillant visage de plus d'une étoile. Sommes-nous devant des dieux ou des mortels ? Hollywood a toujours eu le goût des potins de coulisses, divertissement méchant ou anodin, commun à toutes les formes de show business. Mais dans la serre chaude hollywoodienne, ses ragots et ses racontars s'épanouissent en des formes particulièrement monstrueuses et dévorent la carrière, les talents, la vie intime des artistes de toute envergure. Les mauvaises langues vont bon train sur les plateaux nouvellement insonorisés dans les loges d'habillage. Elles chuchotent dans les salles de projection. Crient à tue-tête pour couvrir les swings et les rumbas des nightclubs à la mode, Trocadéro et Coconut Groove. Elles papotent Brown Derby à l'heure du déjeuner, cancanent au Guinebar Mary's et dans la boîte à l'opaille chez Racole Porter Gala. Et, impitoyablement, lacèrent la chair des starlettes et stars, des caïds du jour ou des has-been défunts en un vorace et hilar banquet de réputation. Dans ces dîners de tête, personne n'est épargné. Ainsi a-t-on dévoré le plus célèbre couple d'amoureux de l'écran, le viril géant Charles Farrell et la mignonne Janet Gaynor, qui a fait rêver toute une génération de midinettes, traité lui de tapette boy et elle de goose girl. Même leur mariage respectif n'arrangeait rien, comme Farrell avec la jolie Virginia Valley, ou les secondes noces de la Gaynor avec l'élégant Adrian, le couturier célèbre pour ses mœurs également. Mariage sinon blanc, au moins gris-perle, disait-on. À Hollywood, il fallait peu de choses pour être atteint par les racontars. Tout servait. Il suffisait pour une star d'être complètement chauve, comme Marion Davis ou Ida Lupino, à l'exemple de Lola Brigida d'Outre-mer. D'être sadique, style Selznick, ou masochiste, ainsi que Jennings, Jennifer Jones et James Dean. D'être vache, à la Type Power ou Charles Lawton. D'être très favorisé par la nature, Bogart, ou très peu, Tab Hunter. Ou plus simplement, d'être un infomane, comme John Fontaine. Pour se venger les infatigables et méchantes langues Carol Lombard et Tallulah Bankhead, on disait que leurs célèbres prothèses dentaires papotaient seules la nuit sur leur table de chevet. Mais les mœurs spéciales étaient, de loin, la matière à ragots préférée. Ainsi fut anéanti plus d'un grand nom. Parmi les metteurs en scène, James Whale, as de la Universal des années 30, rayé de l'industrie après une histoire de balai bleu avec des Boy Scouts. Sa mort, trois lustres plus tard dans sa piscine de Pacific Palisade, devait fatalement être classée comme crime rose. Prenons aussi l'exemple de Murnau, importation exotique de Grand Prix, qui fut installée à la Fox comme un Jupiter, traité à son arrivée en hôte d'honneur d'Hollywood. Sa mort violente en 1931, survenant juste après son retour et l'achèvement de Tabou, déchaîna les destructeurs de réputation qui s'excitèrent à traîner dans la boue le cadavre de ce grand artiste. Ils l'accusèrent de perversité, allant jusqu'à dire qu'on l'avait découvert en une position équivoque, accroupi sous le volant, dans la puissante auto où il avait trouvé la mort, et que la cause véritable de l'accident était l'attention trop particulière que le génial metteur en scène portait à son petit valet de 14 ans, Albertino, qui avait à tout prix voulu conduire l'auto, zigzaguant à plus de 120 à l'heure, à 3 heures du matin, sur la corniche de Santa Barbara. Aux obsèques hollywoodiennes de l'auteur de Nosferatu le Vampire, Le Dernier des Hommes et Aurore, il n'y eut que 11 personnes. Ces histoires se répandaient comme une traînée de poudre. La vérité assez triste est que Murnau était un grand artiste et un homme trop intègre pour qu'Hollywood le tolérât. Une autre importation germanique que les langues jalouses s'efforcèrent d'anéantir fut Marlène Dietrich, fabuleuse Cybèle. À travers les cocktails et les décors steinbergiens en construction, coururent des échos sur le thème des amitiés masculines et surtout féminines de Marlène, les stars Lily D'Amita et Claudette Colbert, l'écrivain Mercedes D'Acosta ou la richissime Jo Carstairs. Cancan colporté par les personnes les plus diverses, depuis ses rivales malheureuses jusqu'aux masseuses renvoyées. Et quand un soir Marlène, avec une merveilleuse désinvolture continentale, fit son apparition au boulevard du Crépuscule en pantalon, les rumeurs qui jusqu'ici n'avaient pas passé le huis clos des cercles vicieux d'Hollywood semblèrent trouver une confirmation éclatante et furent transmises à toute la nation. Marlène aimait porter le pantalon, et elle le porta comme George Sand et la Pucelle l'avaient fait avant elle, et c'est en smoking qu'elle parut à la première hollywoodienne du Signe de la Croix, au bras de Gary Cooper et de Lily D'Amita. En fait, bien que les tenues masculines de Marlène aient primitivement causé un véritable esclandre dans ce pays paradoxal, paillard et puritain qu'est l'Amérique, la mode en fut bientôt lancée, et les femmes de tous âges portèrent le pantalon de leur mari ou de leur boyfriend. Mais en pantalon de sport ou en robe sublime, Marlène n'en demeurait pas moins déesse d'amour, quoique authentiquement androgyne, aimée par les Amazones et les Adams. L'aspect le plus passionnant de la légende hollywoodienne de Marlène était surtout sa liaison avec son metteur en scène, son Pygmalion, le petit Joseph von Sternberg. Curieux homme, ce Sternberg, qui tenait à ce que Marlène fût travestie dans une scène de chacun de ses films, soit avec un chapeau, soit avec un smoking ou costume militaire. De la collaboration de Marlène et de Joseph, en dehors du sensationnel procès de divorce où Mrs. Louisa Royce von Sternberg cita l'Ange Bleu comme responsable de l'aliénation de l'affection de son mari et l'attaqua aussi en diffamation, naquirent pendant un lustre les œuvres les plus insidieusement raffinées qu'ait jamais connues Hollywood. En 1935, l'insolite The Devil is a Woman, La femme et le pantin, en fut l'aboutissement. La Paramount se méfia vite de ce film jugé peu commercial et, quand l'Espagne se plaignit qu'il portât atteinte à la dignité de ses officiers, le studio, qui en avait assez de Joséphine, capitula avec empressement et livra les copies et le négatif qui furent brûlés devant l'ambassade espagnole à Washington. Il ne resta plus à Sternberg, le plus mandarin des metteurs en scène, qu'à fermer son château dans la vallée de San Fernando, vendre au docteur Kinsey sa très complète bibliothèque érotique et faire ses valises. Pour Hollywood, il était fini.